Alors, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de continuer cette étude sur Satan et les anges. Donc, on étudie le sujet de la satanologie, c'est-à-dire l'étude de Satan, qui il est. Et présentement, on aborde plus spécifiquement, on poursuit dans ce qui est le parcours de Satan. On a déjà regardé il y a quelques semaines ce sujet. On va regarder un autre volet maintenant, et c'est le péché de Satan. Donc, on va prendre le temps d'examiner dans les Écritures ce qu'on peut comprendre de la nature du péché de Satan et quelles étaient ses ambitions. Et puis, c'est vraiment révélateur pour nous. Ça l'ouvre nos yeux pour comprendre parfois ce qui se passe aussi dans nos cœurs. Donc, on va examiner en détail, du moins en quelques détails, hein, qui peut sonder les Écritures. Elles sont toujours riches et profondes. On apprend toujours à travers celles-ci. Je pourrais apprendre des choses dans quelques mois, puis ça me ferait ajuster des détails qu'on va voir présentement. La parole, elle est riche. Donc, on se soumet à celle-ci et on apprend de celle-ci. Donc, le péché de Satan, on a un passage qui nous en parle d'une façon plus particulière. C'est dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 17. Alors, si vous le voulez bien, vous pourrez ouvrir le passage. On va passer ces moments ensemble. Dans ce passage principalement. Beaucoup d'autres écritures seront citées et la plupart vont être, quelques-unes vont être affichées à l'écran, les références vont être mentionnées en règle générale. Donc, si vous voulez prendre des notes, vous êtes les bienvenus aussi. Le texte est le suivant, je l'affiche à l'écran, ce sera peut-être petit pour ceux qui regardent sur des appareils mobiles, je vais le lire. « Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur, « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assierai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut, toutefois, on t'a fait descendre dans le Shéol, au fond de la fosse. Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi. Ils te considèrent, disant, « Est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui a fait du monde un désert et qui ruinait ses villes? » Ces prisonniers, ils ne les renvoyaient pas chez eux. » Ce passage d'Ésaïe se situe dans un groupe de versets qui nous parle d'une prophétie contre Babylone. Et en lisant ce passage, on peut le voir, premièrement, bien sûr, en parlant de Babylone, et le symbolisme, les images, vont bien avec la hauteur à laquelle cette ville s'était élevée, sa prétention aussi. On sait même aussi que Belteshazzar, le premier roi qui était avec Daniel dans les faits, c'était pas le premier roi de Babylone, mais le roi le plus connu dans la parole à cause de la prophétie de Daniel aussi à son époque, eh bien, il avait même fait une statue, hein, puis il avait dit « Qui a bâti Babylone? La grande Babylone, à ma gloire, c'est... » Ah, il s'était vraiment élevé. Donc, ça colle ce qu'on lit ici. Mais lorsqu'on prend le temps de regarder un peu plus loin ce passage, on se rend compte que quelques termes qui vont un petit peu plus loin, mais parlent de celui qui est en arrière de Babylone, du diable, OK? C'est son monde, c'est son système, c'est lui qui est derrière tout cela. On va revenir un peu sur cette pensée-là tantôt. Donc, on y voit cela dans ce passage. Et puis, lorsqu'on va aborder les cinq points, on peut les aborder d'un point de vue plus terre-à-terre, puis on peut les aborder d'un point de vue beaucoup plus... qui nous parle de quelles étaient les ambitions de Satan. Donc, on va examiner ces quelques points ensemble. Ça va nous donner aussi beaucoup de lumière sur ce qui a trait... au salut lorsqu'on va aborder ce sujet-là, parce qu'on aura été délivré de ce péché-là. Donc, ce premier péché nous aide aussi à comprendre un peu plus celui qui l'a commis. Ce péché est aussi au centre même de tous les péchés et démontre ce qui rend le péché excessivement pécheur devant Dieu. Donc, en ayant examiné qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Satan, quelles étaient ses ambitions, ce qui l'a amené à pécher comme il l'a fait, on va comprendre grandement pourquoi le péché peut être rendu excessivement pécheur. Quelques points généraux sur ce passage d'Ésaïe. Okay? Quelques détails que nous allons regarder. Premièrement, c'est une prophétie qui parle de la puissance de Satan. On trouve des expressions comme « toi qui subjuguais les nations ». Est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui a fait du monde un désert et qui ruinait ses villes, ses prisonniers, il ne les renvoyait pas chez eux. On voit ici le diable, Satan, qui a une puissance pour faire toutes ces choses-là. On voit que par son trafic, par sa sagesse, par toutes ses capacités, il est capable d'avoir il a un impact extraordinairement grand sur le monde qui nous entoure, même aujourd'hui. Ce n'est pas juste des choses qui ont lieu dans le passé. On va le voir tantôt, cette prophétie-là, c'est une prophétie qui regarde déjà ce qui va être, qui regarde en rétrospective ce qui est arrivé à Satan. On va le voir tantôt, OK? Et puis, ces choses qu'on voit dans ces expressions de puissance vont être pleinement manifestées très bientôt pendant les 7 années de tribulation qui vont avoir lieu sur la terre. Mais cette prophétie aussi nous parle de la chute de Satan. Donc, son péché, il était caché. On l'a mentionné dans notre dernière étude. Son péché, il était caché. Et puis, c'était probablement pas son intention que ce soit si ouvertement manifesté. Mais Dieu, lui, il manifeste tout. Il connaît les cœurs. Donc, il a dit 5 choses, Satan, 5 expressions qui sont montées dans son cœur. Des « je vais », « je monterai aux cieux ». J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Eh bien, on va examiner dans le détail un peu plus ces 5 je suis que Satan a mentionné pour apprendre qu'est-ce qu'il en est de son péché. Mais avant de faire cela, on va répondre à une question concernant la chute de Satan. La chute du ciel de Satan. Donc, on lit dans cet passage qu'on vient de voir qu'il a été précipité dans le Shéol. Est-ce que la chute de Satan a déjà eu lieu? Est-ce qu'il est chassé des cieux déjà? Est-ce qu'il est dans le Shéol? La parole, peut-être que certains d'entre vous vont répondre très rapidement à cette question. C'est évident, c'est l'évidence, mais on va regarder quelques versets dans la parole de Dieu qui répondent à cette question pour nous, sans qu'il y ait d'autres questions à poser. Donc, premièrement, c'est prophétisé, la chute de Satan. C'est annoncé comme un événement encore futur. Le Seigneur Jésus en parle. Il a dit dans Luc 10, au verset 18, en anticipant cet événement, et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. » Eh bien, cela n'est pas encore arrivé, mais va arriver lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12. C'est écrit, et je paraphrase le passage, c'est du verset 7 à 9. « Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Le livre de l'Apocalypse est clairement un livre de prophéties qui vont s'accomplir bientôt. Les choses qui sont écrites dans le livre de l'Apocalypse ne sont pas encore accomplies, ne sont pas encore arrivées. S'il y a certains systèmes théologiques, malheureusement, qui disent que le livre de l'Apocalypse, eh bien, c'est des choses qui sont déjà accomplies, ce sont des images, machin. C'est faux, OK? La parole de Dieu, elle est claire, elle est simple. Tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament concernant la venue du Christ et toutes ces choses-là se sont accomplies littéralement comme c'était écrit. Et tout ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse va s'accomplir littéralement comme c'est écrit aussi. Bon, bien sûr, il y a quelques images, mais règle générale, les événements qui sont décrits vont arriver. Donc ici, la chute de Satan, c'est encore un événement qui est à venir. Donc, on voit aussi Satan qui a accès aux cieux, à la demeure de Dieu, là où sont aussi les anges. Eh bien, c'est écrit, entre autres, dans Job, chapitre 1, verset 6, et chapitre 2, verset 1. C'est pas la même chose, mais c'est le même genre d'événement qui est décrit. « Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux. » Donc, les anges ont toujours accès à la présence de Dieu. Satan aussi a toujours accès à la présence de Dieu. D'ailleurs, j'ai pas mis l'exemple, c'est avec le roi... Je vais oublier son nom, mais il y a un roi dans l'Ancien Testament. C'est un roi d'Israël qui était mauvais, Akab. Akab, on voit qu'il a été trompé par des faux prophètes. Et puis quand le prophète Michée, si je ne me trompe pas de son nom, il a dit, « J'ai entendu l'Éternel qui consultait, c'était des anges avec lui, qui allait le convaincre d'aller à la guerre? Puis il y avait des mauvais esprits qui étaient là, bien sûr, des démons, des anges qui n'étaient pas gentils. Eh bien, ils ont dit, je vais lui dire ceci, cela, il va croire, il va y aller. L'Éternel a dit, ouais, il va te croire, va. On voit qu'ils ont accès à la présence de Dieu, les anges. Donc, le diable a toujours accès à la présence de Dieu. On lit aussi cet autre passage, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Donc, le verset 7 de Job 1 nous dit que non seulement Satan a accès à la présence de Dieu dans les cieux toujours, mais qu'il a aussi accès pleinement à la terre. Donc, il est là, il se promène d'un endroit à l'autre, il est libre de le faire. Ça fait partie des libertés et des capacités qu'il a reçues comme créature angélique. Malheureusement, depuis son péché, il fait ces choses en vue de ses propres intérêts, de ses propres projets, et qui sont toujours contraires à Dieu. En vue du mal. Donc, rien nous indique que c'était une chose anormale que Satan soit là dans les cieux, et puis il est encore toléré là pour un certain temps. On voit aussi dans le passage de Job que ça lui est demandé qu'il rende des comptes concernant son occupation. Et c'est ce qu'il fait aussi. Je me suis promené ça et là sur la terre. Bon, ça nous est donné d'une façon générale. Ça nous montre un peu aussi son attitude, mais il doit rendre des comptes encore à Dieu. N'oublions pas que Satan, dans les cieux, il est là comme l'accusateur, le diable. On sait que le Seigneur Jésus a dit, « Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé » dans Luc 22, verset 31. Alors, il était là, ça suggère qu'il était là dans la présence de Dieu, puis avait demandé ça, de cribler Simon comme le blé. Alors, dans les cieux, on lit aussi dans la parole qu'il y a la puissance de méchanceté qui est toujours là. Toujours. C'est un état qui est actuellement encore vrai et présent, actuel pour nous. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Alors voilà, les puissances de méchanceté sont encore là, dans les lieux célestes. Très bientôt, on l'a vu dans Apocalypse 12, tous ces anges, Satan et ses anges qui étaient avec lui, vont être précipité hors du ciel à tout jamais. La prochaine étape de Satan à ce niveau-là, c'est pas compliqué, ça va être d'être précipité dans l'abîme pour 1000 ans et d'être précipité ensuite dans le lac de feu éternellement. Donc en conclusion, on l'a à l'écran, Satan a encore accès aux cieux, tant aux cieux qu'à la terre. Et ce sera le cas jusqu'à son jugement final, dont on a lu dans Apocalypse 12, dont le Seigneur a parlé à l'avance aussi, qui voyait Satan comme précipité, comme une éclair sur la terre. Et puis, les prochaines étapes pour Satan, c'est qu'il est libre présentement. Hein? Dieu permet ça. Il laisse aller le mensonge jusqu'à sa pleine manifestation comme de quoi c'est faux. Dieu va avoir prouvé à Satan lui-même que son mensonge, il est faux. Que son péché, il est faux. Que c'est un chemin d'erreur. Mais le jugement va suivre aussi à la fin de tout cela. Un peu comme on lit dans l'Ancien Testament, où le jugement de Dieu, ça prend un temps avant qu'il arrive sur les nations mauvaises. Lorsqu'il donne sa promesse à Abraham, il parle que sa descendance va être en Égypte pendant 400 ans. Et puis quand le péché des Amoréens et des autres peuples qui sont dans la terre promise va être arrivé à son point culminant, eh bien Israël va arriver en jugement aussi sur le péché. Donc, le jugement de Dieu va arriver au bon moment sur toutes ces choses-là. Les prochaines étapes pour Satan, ça va être un confinement. On connaît ça, le confinement, nous autres. Hein? Le confinement pour 1000 ans dans l'abîme. Après, ça va être libéré un court moment. Il n'aura pas changé pour une miette, Satan. Il va toujours croire son mensonge. Et puis, la dernière étape, ça va être précipité dans les temps de feu au siècle des siècles. Confiné au lac de feu éternellement. Alors voilà, ces choses-là. N'oublions pas que même si Satan, présentement, il a encore cet accès aux cieux, il a néanmoins perdu sa position qu'il avait comme ange avant la chute. Il est déchu. Il avait une position glorieuse, une position grande où il était celui qui... un chérubin qui protégeait, pour ainsi dire, la grandeur, la gloire du trône de Dieu. Eh bien, maintenant, il a tout perdu, ces choses-là. Sa sagesse extraordinaire, elle est devenue corrompue pour le mal. Et puis, sa beauté, eh bien, elle est perdue entièrement. Il a perdu la position qu'il avait. Il est déchu. Donc, même s'il a accès aux cieux, c'est pas comme il était auparavant. OK. Avant d'examiner aussi le passage d'Ésaïe, chapitre 14, on va regarder à quelques petites différences qu'il y a entre le passage prophétique que nous avons considéré dans notre dernière présentation concernant Ézéchiel et le passage d'Ésaïe que nous allons voir maintenant. Je l'ai mentionné rapidement dans mon introduction, mais Ézéchiel 28, versets 11 à 19, il regarde en avant de façon prospective sur ce qui va arriver à Satan en se plaçant au début de son histoire. Autrement dit, Ézéchiel est au début de la vie, de l'histoire de Satan. Il est au début et il regarde à ce qui va arriver à cet ange déchu-là. Donc, toute sa carrière, sa chute, son jugement, etc. Ça, c'est l'approche d'Ézéchiel. L'approche d'Ésaïe, c'est l'inverse. Ésaïe, il a un regard en arrière, rétrospectif, sur ce qui est arrivé à Satan. Il se place à la fin de son histoire. Et puis, je vais m'arranger pour que vous voyez sa caméra, voilà ici. Il se place à la fin de son histoire et il regarde vers le passé tout ce qui est arrivé à cet ange-là, tout ce qui est arrivé. Alors, c'est le langage, il est différent dans les deux prophéties et ça, comprendre cet aspect-là nous aide à bien saisir et bien interpréter qu'est-ce qui est mentionné dans ces passages. Une autre différence qu'on peut voir entre les deux passages, ce sont les titres utilisés. Dans Ézéchiel, Ézéchiel parle de la part de l'Éternel et il parle du roi de Tyr. Okay? Dans Ésaïe, c'est différent. Ésaïe, lui, il parle de la dégradation de cet être glorieux qui était dans le passé. Et puis, il utilise le titre qu'il avait au ciel avant sa dégradation, c'est-à-dire « astre brillant », Lucifer. Nous, dans la traduction française Darby, si on lit cette traduction, très bonne traduction pour étudier la parole en passant, eh bien, on ne trouve pas le nom ou le mot « Lucifer ». Si vous utilisez la traduction de Darby en anglais, c'est écrit « Lucifer ». Lucifer veut dire « astre brillant ». C'est un titre qu'il avait. « Astre brillant, fils de l'aurore », Ésaïe 14, verset 12. Alors, c'était son titre avant la chute. À cet égard, c'est remarquable de considérer le sens de ce titre-là ou de ce nom. C'est remarquable de considérer le fait que ce titre, ce nom, soit si près, si semblable au titre que le Seigneur Jésus lui-même a aujourd'hui, l'étoile brillante du matin. C'est remarquable. Remarquable pour deux raisons, regardez bien. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, 1 Corinthiens 15, 45, on voit que Christ est le dernier Adam. C'est le dernier Adam. Il est le successeur d'Adam. Il prend la place d'Adam. Adam, il a manqué. Il a déchu de sa position. Eh bien, Christ vient et il est celui qui n'a pas manqué et qui jamais ne va déchoir de cette position. Il remplace Adam. Okay? Il le succède complètement. Eh bien, on pourrait dire la même chose concernant cet être glorieux, sage, magnifique qui avait été créé avec une position si élevée. Il a déchu à cause de son péché. Eh bien, Christ, il vient, cet ange déchu, il est là, il avait ce titre d'astre brillant. Christ vient, lui qui ne manquera jamais, lui qui est glorifié maintenant dans les cieux, et il prend complètement la place, il succède entièrement à cet être qui, dans la création, avait eu le maximum de ce qu'on peut avoir. Puis il a manqué, il a déchu. Alors Christ est le second Adam et Christ, il est l'étoile brillante du matin. Alors lui seul est digne d'avoir tous ses titres. Lui a repris toute cette place qui avait été perdue à cause du péché. Celui qui, vraiment, il est le bras puissant de l'Éternel et en lui, Dieu va accomplir son plaisir. Grâce au Seigneur Jésus, grâce à son œuvre accomplie sur la croix, grâce à sa vie parfaite, etc. On peut rendre gloire à Dieu pour cela. Donc, c'est magnifique de voir Christ supérieur dans tout. Oui, il doit avoir la prééminence en toute chose. Et partout où le péché est entré et qu'il y a eu corruption, bien Christ, il est venu et lui, il est celui qui glorifie Dieu à tous égards. Il est digne de tous les titres glorieux. Finalement, un dernier petit parallèle, un des liens avec l'Apocalypse. Dans Ézéchiel 28, eh bien, Ézéchiel y parle des personnes du prince de Tyr et du roi de Tyr. OK? Dans 28, pas juste 11 à 19, mais du verset 1 à 19, on trouve le titre de prince de Tyr et de roi de Tyr. Ézéchiel parle de personnes, il parle d'individus. OK? Clairement, c'est son premier sujet d'abord. Et c'est intéressant parce que ça nous fait penser aussi à deux individus dans l'Apocalypse. Il y aura la bête et le faux prophète. Deux individus. Et lorsqu'on lit Ézéchiel 28, 1 à 19, eh bien, lorsqu'il est question du prince de Tyr, on peut presque y voir la deuxième bête. Ou l'antichrist, si vous voulez. Je ne dis pas nécessairement que la deuxième bête, c'est l'antichrist. On peut discuter beaucoup là-dessus. Ça ne me tente pas de parler de cela ce soir. La bête et la bête et le faux prophète dans l'Apocalypse, les deux ensemble forment l'antichrist, OK? On est tous d'accord avec ça. Les deux sont contre Christ, sont opposés à Christ, OK? Je veux juste mentionner cela ici. Le facteur humain dans ces deux bêtes-là. Et puis, le roi de Tyr, c'est celui qui est derrière. C'est le diable. Okay? Donc, il y a le dragon. Il y a le dragon qui donne sa puissance, sa force à la bête, puis au faux prophète. Voilà. Ésaïe ne parle pas directement d'une personne ou à des personnes, mais il parle plutôt de la ville de Babylone. C'est une prophétie qui concerne Babylone. Donc, ça nous fait penser aussi à Babylone comme système commercial et religieux dans le livre de l'Apocalypse. C'est exactement cela qu'on trouve aussi. Le système et celui qui est derrière, encore une fois, le diable, le dragon. Donc, c'est vraiment très intéressant. Deux approches un peu différentes. Ézéchiel parle plus des personnages, Ésaïe plus du système de la ville. Mais en arrière, c'est toujours le même. On ne doit pas faire erreur. Toujours le même qui est derrière ce système, qui l'énergise, qui le contrôle. On va voir quelques détails additionnel. OK, en résumé, on va juste dire ceci. Dans Ésaïe 14, versets 12 à 17, le prophète parle de la chute de Satan comme ayant déjà eu lieu. Mais il regarde rétrospectivement à sa carrière. Autrement dit, elle est donc encore une prophétie qui doit s'accomplir. OK? Elle n'est pas encore accomplie, mais elle va s'accomplir définitivement très bientôt. Donc, c'est le résumé qui répond à notre question. La chute de Satan, c'est quand? Bientôt. Elle n'a pas eu lieu encore. Il a accès aux cieux, il a accès à la terre, il fait encore plein de choses pas gentilles du tout. Il est encore en train de servir son mensonge, ses intérêts, son but, ce qui le motive. Il est encore en plein là-dedans. Mais très bientôt, il va être chassé. Et il est déjà vaincu en Christ et il sera vaincu définitivement par lui prochainement. Donc voilà, le troisième point est là. Il s'accomplira définitivement très bientôt cette prophétie. OK, maintenant nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet, les détails qui concernent les cinq « je vais ». Ça se dit mieux en anglais « I will ». OK, en français, nous on conjugue les verbes différemment, mais en anglais ça sonne très bien. C'est « five I will ». OK. I will do this and that. Donc ici, en français, les cinq « je vais » faire quelque chose que Satan a mentionné. En examinant ces cinq « je vais », on a une révélation concernant le péché de Satan. Et puis en abordant le sujet du péché de Satan, rappelons-nous ce que le Nouveau Testament dit sur le sujet. Sur le sujet, le Nouveau Testament nous dit deux choses concernant le péché de Satan. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 6, on lit concernant celui qui désire être un surveillant. Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Donc le Nouveau Testament nous parle ici d'être enflé d'orgueil et que ça faisait partie de la faute du diable. Le deuxième passage qui nous parle de cela dans le Nouveau Testament, c'est ce que notre Seigneur Jésus a dit lui-même dans Jean chapitre 8 au verset 44. Il a dit, entre autres, je vais juste couper des bouts du verset, « Il n'a pas persévéré, le diable, Satan, dans la vérité. Il profère le mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Il a été meurtrier dès le commencement. » Donc, ces éléments que le Nouveau Testament nous mentionne concernant le péché du diable, c'est tout le même péché. Et maintenant, en regardant dans Ésaïe, on va voir la nature même exacte de ce péché qui s'est trouvé dans cet ange qui avait été créé pourtant parfait comme tous les autres. OK. Quand je dis parfait, c'est... Oui, on a déjà discuté de cela, hein? Il n'a pas été créé avec une faute en lui. Il a été créé un agent libre, il pouvait choisir, mais il s'est enflé d'orgueil, il est devenu menteur. On va regarder les détails maintenant. Ça reste tout le temps un mystère. Si jamais vous avez quelques questions qui surviennent, eh bien, quand je mettrai en ligne ces vidéos, vous pouvez aller voir la présentation précédente. On avait parlé plus en détail du point. OK. Tous ces points décrivent le caractère de son péché, celui de... s'élever au-dessus de la sphère dans laquelle il avait été créé et au-dessus du but et du propos pour lequel il avait été créé. C'est ça le caractère du péché de Satan, c'est l'élévation de soi. Et maintenant, on va regarder plus en détail ces aspects-là. Rappelons-nous juste une chose, c'est que ce caractère du péché qui s'est trouvé dans Satan, c'est le caractère essentiel du péché tant chez les hommes aujourd'hui que chez les anges. OK? C'est la même chose. La fin d'une telle voie, néanmoins, on la connaît. C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 14, versets 15 à 17. On l'a lu tantôt. « Toutefois, on t'a fait descendre dans le Sheol au fond de la fosse. » Tu veux t'élever? Tu veux t'exalter? Eh bien, on va te faire descendre jusqu'au plus bas possible, dans le Sheol, au fond de la fosse. Hein? Il va y avoir plein d'autres personnes dans cet endroit-là, malheureusement. Tous ceux qui auront cru le mensonge, qui auront aimé le mensonge, qui n'auront pas eu l'amour de la vérité. Ils vont dire quoi? Ceux-là qui sont là, eux aussi, dans les tourments, ils vont dire ceci. Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi, ils te considèrent en disant « Hey, c'est si l'homme qui a fait trembler la terre, hein? Qui ébranlait les royaumes, qui a fait du monde un désert, qui ruinait ses villes, ses prisonniers ne les laissaient pas, ils ne les renvoyaient pas chez eux. » Voilà, tout le monde va être étonné. Même ceux qui vont être aussi dans le lac de feu. Et oui, c'était lui. Puis il va être là lui aussi. Il va être là lui aussi. Il n'aura pas réussi à avoir le succès dans son mensonge. Regardons maintenant les éléments qui nous sont révélés dans cette prophétie concernant le péché de cet ange. Il dit « Je monterai aux cieux ». Première expression qu'il mentionne, le premier « je ». Je monterai aux cieux. Rappelons rapidement que les cieux sont la demeure de Dieu et des anges aussi. Les anges y sont. Okay? C'est ce qu'on trouve entre autres dans Matthieu 24, 36, cette toute petite expression où c'est écrit concernant le moment de la révélation du Fils de Dieu, de la fin. Okay? Jésus a dit, pas même les anges des cieux le savent. Personne ne le sait, pas même les anges des cieux. Donc, les anges dans les cieux, c'est là qu'ils sont. Certains vont dire que les cieux, c'est les cieux célestes, là, le deuxième ciel où il y a les étoiles puis tout le truc, machin. Mais si les anges ont été créés avant que quelque matière ait été créée, ça ne fait pas vraiment de sens que ce soit là leur demeure. Il n'y a rien. Il y a juste des étoiles en train d'exploser, puis du gaz, puis des nuages, puis des cailloux qui flottent partout. OK? C'est la Terre, tout le reste, c'est juste un beau canvas, une tapisserie que Dieu nous a mis pour voir la grandeur de sa puissance extraordinaire, magnifique. La puissance et la beauté de notre Dieu dans toute la création. Les anges sont dans les cieux, le troisième ciel. C'est là qu'ils étaient, c'est là qu'ils sont. même les anges déchus. Okay? Maintenant, ils ont plus d'intérêt ici que là, mais c'est là aussi leur demeure. Donc, les anges ont accès à ce lieu. Ils ont accès aux cieux. Et puis, il semble que ce lieu soit leur demeure. En effet, je viens de le mentionner, on les voit pas ailleurs, mais occasionnellement, on les voit dans la sphère de la création matérielle que nous connaissons. OK? Pour le propos de Dieu. Autrement dit, il y a quelques manifestations angéliques une fois de temps en temps. C'est pas commun. On les voit dans les Écritures. Ils sont ici aussi. Ils ont accès aussi à ce département, tout comme Satan. Tous les anges ont ces mêmes libertés. La demeure, la présence de Dieu, et puis la terre où nous sommes présentement. Autrement, ils sont dans les cieux. OK, l'activité de Satan est ici en vue. Quand il dit « je monterai aux cieux », il faut comprendre que Satan désire activement y monter pour s'élever. C'est vraiment ça le sens de l'expression ici. Il veut avoir une place dans les cieux. Il désire activement s'élever dans cet endroit-là. Le mot utilisé pour « monter aux cieux », le mot hébreu veut dire monter, en effet. Il veut dire gravir. Il veut dire s'élever. Autrement dit, on aurait pu dire « je vais gravir les cieux ». Je vais m'élever aux cieux. C'est vraiment ça le sens de la pensée ici qui est mentionnée. Il veut aller plus haut que la haute position dans laquelle il avait déjà été établi. Écoutez, on s'en souvient, Satan a probablement été, il était, je le pense, d'après ce qu'on comprend des Écritures, l'ange le plus élevé de toute la gang. Okay? Il y avait lui, il y avait tous les autres en dessous. Il y avait déjà la position maximale, mais ce n'était pas suffisant pour lui. Il voulait s'élever encore plus haut que ça. C'est ça son péché. C'est la place où Christ est aujourd'hui, cette place-là. Quand Christ y est ressuscité, on lit dans Éphésiens, chapitre 1, versets 20 et 21, que Dieu l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, toute autorité, puissance et domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. C'est Jésus qui a la place top numéro un. C'était à lui cette place-là. C'était pas pour le diable. C'était pas pour qui que ce soit d'autre. Aucun autre homme, aucun autre ange. C'est cette place-là que Satan voulait. C'est exactement cette place-là qu'il a convoité lorsqu'il a dit « Je monterai aux cieux. Je vais m'élever là-haut dans les cieux. » Voilà. Vous allez voir à mesure qu'on va examiner les cinq « Je suis », prenez le temps de réfléchir des fois à ce qui se passe dans nos cœurs, lorsque nos cœurs s'élèvent. Wow! Ça nous ouvre les yeux. On va revenir sur ce point-là en conclusion tantôt, mais ça l'ouvre les yeux sur le chemin dans lequel nous avons été entraînés, nous aussi. OK, la deuxième expression. Oh, je montrais aussi, j'avais une autre petite slide. Ah, regardez ça, j'ai un beau petit passage ici. La grâce de Dieu ne serait pas satisfaite sans avoir élevé des hommes autrefois pécheurs dans une telle position dans les cieux. Est-ce que c'est pas magnifique, ça? Nous, comme êtres humains, comme créatures, et spécialement nous qui étions des pécheurs avant, on n'avait pas non plus aucun droit ni aucune place à une telle élévation. Mais Dieu, lui, dans sa grâce, lorsqu'il nous a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver, notre Dieu est un Dieu d'amour, de grâce, qui aime donner et ne pouvait pas s'empêcher de nous donner aussi toutes choses avec son Fils Jésus-Christ. Alors, non seulement il nous a donné son Fils pour être sauvés, rachetés de nos péchés, mais il nous donne tout avec Christ. Quelle chose extraordinaire! On a été élevés par grâce à la position de citoyen des cieux. Et il y a beaucoup de versets dans la parole qui nous en parlent. Je vais juste donner quelques-uns rapides. J'ai une grosse liste ici, je ne vais pas vous lire tout ça, mais hein, notre bourgeoisie est dans les cieux maintenant, Éphésiens 3, 20. Et puis, le Seigneur est allé nous préparer une place et il revient pour nous prendre auprès de lui, Jean 14, verset 3. Et le Seigneur a dit dans sa prière au Père, « La gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un, et moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, là-haut dans les cieux, dans cette gloire-là. » Wow, extraordinaire, hein? On est mort avec Christ. Notre vie est cachée en Christ maintenant. Puis quand Christ va être manifesté, on va être manifesté avec lui en gloire. L'autre passage, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances, amenant plusieurs fils à la gloire. Et puis, on a maintenant une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. C'est grâce à l'œuvre de Christ que nous sommes sauvés. On est enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais vous savez quoi? Notre droit pour être là, c'est extraordinaire. C'est grâce à l'œuvre de Christ. Mais Satan, lui, il n'y a aucun droit à cette place-là. Ni par création, ni par rédemption. Il n'y a pas été... Christ n'est pas mort pour des anges. Il est mort pour sauver des hommes. Il n'y avait aucun droit à cette place-là. Elle est à Christ. Et par la toute grande grâce de Dieu, à nous associer à Christ pour l'éternité. Ça, moi, je dis amen. Je fais comme... Ouh! Je ne sais pas si vous vous sentez comme... Oh yeah! Wow! Dieu fait ça. Voilà, je monterai aux cieux. C'est ce que Satan avait dit. OK, le deuxième point qu'il a dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Alors, il y a certaines personnes, on pourrait lire le passage puis voir plus littéralement que c'était les étoiles dans l'univers. Mais je pense que les étoiles sont un symbole de position, d'autorité dans les Écritures et pourraient très bien parler, comme c'est le cas en effet à quelques reprises, des autres anges. Hein? Autrement dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Satan voulait régner au-dessus de tous les autres anges. Il voulait régner au-dessus du domaine céleste. Retenez ça. Il voulait régner au-dessus du domaine céleste. Les étoiles... Comme des anges, on trouve cela dans Job, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Ce verset, on l'a vu dans notre dernière présentation. Et puis, on voit aussi dans Apocalypse 12, versets 3 et 4, que le dragon, lorsqu'il a été précipité sur la terre, la queue du dragon entraîne le tiers des étoiles du ciel avec lui. Puis Satan et ses anges est ensuite précipité sur la terre, lorsqu'il perd le combat dans le ciel. Donc, les étoiles sont encore ici des anges. Et puis, voilà pour les étoiles. Donc, les étoiles nous parlent vraiment de position et nous parlent, dans certains cas, directement d'anges. Donc, les ambitions malsaines de Satan ont été permises de la part de Dieu. Dieu le tolère jusqu'à maintenant, bien qu'il soit déjà jugé en la croix. Okay? Bien que Satan soit déjà jugé en la croix de Christ, Il est reconnu présentement comme ayant une forme d'autorité, de trône dans la sphère céleste et dans la sphère terrestre. On a quelques versets qui nous le montrent. Son ambition, il travaille encore activement à celle-ci aujourd'hui. Il fait tout ce qu'il peut. Donc Satan, c'est un chérubin qui couvre. Il gardait le trône de Dieu, mais il a désiré un trône pour lui-même. Il a désiré dominer. Il désirait dominer au-dessus des anges et il désirait dominer aussi tant dans la sphère céleste, on a des versets qui nous en parlent, que dans la sphère terrestre. Et il le fait en partie présentement. Donc, le Seigneur Jésus, il parle dans Matthieu 12, 26, « Comment son royaume subsistera-t-il en parlant de Satan, si Satan chasse Satan, son royaume? » Donc, on parle de Satan comme ayant un royaume ici. OK? On lit au sujet du chef de l'autorité de l'air dans Éphésiens 2, 2. On lit aussi que Christ a dépouillé les principautés et les autorités dans Colossiens 2, 13 à 15. Donc, il semble y avoir principauté, autorité, royaume, chef de l'air, etc. Oui, Satan est caractérisé par ces choses présentement. Puis pour ce qui est de la sphère terrestre, eh bien, le diable avait dit dans Luc 4, même si c'était un mensonge en partie aussi, c'était un fait aussi de l'autre côté, on l'a mentionné dans notre dernière présentation, il a dit « Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, si, car je la donne à qui je veux ça, c'est si... » c'est ce que le diable a proposé au Seigneur en lui rendant hommage. « Si tu me rends hommage, je vais te donner toutes ces choses-là. » OK? Alors, il a une autorité sur la gloire des royaumes. Puis les royaumes, il dit que c'est à moi. C'est sûr, c'est lui qui les a bâtis. Le Seigneur n'en a rien à faire. Et puis, le Dieu de ce siècle. On lit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Et finalement, Apocalypse 2, 13, on lit « Là où est le trône de Satan ». Donc, il semblerait comme cette ville-là, il y avait le trône de Satan. Bon, c'est pas que Satan ait un trône physique, mais ça nous montre que oui, Satan y règne sur ce monde dans lequel nous sommes présentement. Okay? C'est le dieu de ce siècle. Donc, son objectif, il est déjà un petit peu... Il l'atteint pas comme il voudrait, mais on voit qu'il travaille fort vers cet objectif-là. Dominer dans les cieux, dominer sur la terre. Mais si c'est encore permis de Dieu, ces agissements contraires aux propos de Dieu, ce n'est que pour un court moment encore. On l'a vu tantôt, il va être précipité et du ciel et de la terre. Chassé sur la terre en premier, mis dans l'abîme, mis dans le lac de feu. Il va être chassé de tout cela. OK, fait que voilà pour « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Satan veut dominer dans les cieux. La deuxième domination, « Je m'assiérai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. » Donc, la montagne de l'assignation, les montagnes, la montagne, c'est souvent un symbole du gouvernement et de l'autorité de Dieu sur la terre. Et puis, la montagne de l'assignation, on peut y voir cette expression qu'elle est assignée à quelque chose, à quelqu'un de particulier. Okay? La montagne, ce gouvernement, il est assigné pour Christ. Puis, il appartient à Dieu, ce gouvernement-là. C'était pas à qui que ce soit d'autre de l'avoir. Donc, on lit des passages dans les Écritures qui nous parlent, entre autres, dans Ésaïe 2, versets 1 à 4, et il arriva à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes. Ce sont des images qui nous parlent du gouvernement de Dieu qui va être établi sur tous les autres gouvernements qu'il y a sur la terre. Ça va être Dieu qui va régner pour l'éternité. Donc on a cela. Ce que Satan veut, c'est dominer sur toute la terre. C'est ça qu'il veut. Je m'assierai sur la montagne de l'assignation, mais malheureusement, la montagne de l'assignation ne lui est pas assignée, justement. C'est pas à lui. C'est Christ qui va régner sur toute chose. C'est à Christ que Dieu a dit « Assis-toi jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Demande-moi les nations du monde, je te les donnerai. » Voilà. C'est au Seigneur Jésus que ces choses sont promises. C'est Christ qui va dominer. C'est pas personne d'autre. Donc, Satan voulait régner et gouverner sur la création de Dieu au complet, tant dans les cieux que sur la terre. Combien c'est opposé, hein? Aujourd'hui, on le réalise pleinement avec le propos de Dieu qui était Christ, l'agneau préconnu dès avant la fondation du monde, son Fils bien-aimé. C'est pour lui et par lui que toutes choses ont été créées. C'était pour lui tout ça. C'est encore pour lui. C'était pas pour quelque créature que ce soit. OK, on a le cinquième, la quatrième mention. Il dit « Je monterai sur les hauteurs des nues ». Les nues parlent justement des hauteurs élevées. Elles nous parlent d'élévation. Elles nous parlent de gloire aussi. J'ai des points, je vais essayer de les afficher ici. Elles nous parlent de gloire, OK? Il y a un grand nombre de références qui sont en lien avec la présence et la gloire de Dieu dans la parole. Exode 16, verset 10. « La gloire de l'Éternel parut dans la nuée. » Exode 40, verset 38. « Car la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle le jour, et un feu y était la nuit. » Dans 1 Rois 8, verset 10. « Lorsque le temple a été consacré, la nuée remplit la maison de l'Éternel. » Dans le psaume 104, on lit « Il fait des nuées son char. » C'est Dieu qui fait des nuées son char. Donc, on voit que les nuées sont liées tant à la présence de Dieu qu'à la gloire de Dieu. Okay? Satan, lui, il dit « Je vais monter sur les hauteurs des nues. » C'est ça qu'il voulait faire. S'élever, glorifier sa personne. Mais Christ, on lit dans les Écritures aussi qu'il va revenir comme il est parti en lien avec les nuées. C'est écrit dans Matthieu 24, verset 30. Je vais afficher les références. « Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. » C'est écrit dans Actes 1, verset 9, que Christ fut élevé de la terre, et une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux. C'est écrit dans Apocalypse 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées. » et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et par la grâce de Dieu, nous les saints, on va être associés à lui aussi. On lit entre autres dans 1 Thessaloniciens 4, 17, que nous serons ravis ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air. En contraste avec cela, on a l'homme de péché, qui est probablement l'idéal de Satan aussi. Hein? On voit qu'il va s'opposer contre tout ce qui s'élève et contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. 2 Thessaloniciens 2:4. Mais c'est ni à Satan, ni à ceux qui suivent ces places-là. C'est Dieu qui donne ces places-là. La gloire, la hauteur et l'élévation n'appartiennent qu'à Dieu seul et à qui il désire le donner, comme nous on a été élevés pour être associés à Christ éternellement. Quelle grâce de Dieu! C'est lui qui fait ça, c'est pas nous, c'est lui qui fait ça. Donc voilà, Satan désirait bien des choses qui n'étaient pas pour lui. Combien il était enflé d'orgueil, combien il a voulu s'élever. Je serai semblable au Très-Haut. Et remarquez bien, on va terminer notre présentation là-dessus, ça tombe bien, l'heure avance très vite. Le cinquième « je vais » nous donne la clé pour comprendre et retracer les motifs et les méthodes de Satan. Malgré le fait que tous les idéaux de Satan sont contraires à ceux de Dieu, son but est néanmoins d'être comme Dieu. Mais peut-être pas comme vous le pensez, ok? Son but, c'est d'être comme Dieu, mais pas comme l'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui est. Je suis celui qui suis. C'est celui qui vit éternellement et indépendamment de qui ou quoi que ce soit. Il est. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il a toujours été et il est le seul être qu'on pourrait dire indépendant, si vous me permettez cette expression en le disant gentiment. Toute créature que Dieu a créée, nous dépendons de Dieu pour la vie, pour tout ce qui nous concerne. Les anges dépendent de Dieu, les hommes dépendent de Dieu. Notre place comme créature, c'est de reconnaître notre place de dépendance et de subordination. C'est cela, notre place. Eh bien, Satan n'a pas l'intention d'être comme l'Éternel. Qui pourrait être comme l'Éternel? Personne ne peut être comme l'Éternel. C'est impossible. Juste lui. Je suis celui qui suis. Il est celui qui est éternellement. OK? Mais c'est écrit dans notre passage qu'il désire être semblable au Très-Haut. Le Très-Haut, ce qu'on trouve aussi dans Genèse 14 avec Abraham, c'est celui qui possède les cieux et la terre. Le Très-Haut, c'est le possesseur des cieux et de la terre. La voyez-vous? Vous voyez venir maintenant, hein? Satan veut posséder tout. Il veut dominer sur le ciel et sur la terre, veut posséder les cieux et la terre. C'est ça qu'il veut. It's the big deal. C'est ça qu'il veut. C'est son objectif. C'est ce qui a monté dans son cœur d'avoir. Dominer sur toutes ces choses-là. Voilà. C'est Christ qui doit dominer sur toutes ces choses-là. Alors, il ne veut pas être semblable à l'Éternel, à Jéhovah, à Yahweh, ok? Il veut être semblable, il veut être semblable au Très-Haut, comme celui qui possède toutes choses. Satan veut dominer sur toutes choses. Alors, lorsqu'il dit « je serai semblable au Très-Haut », eh bien, le caractère de son péché, le caractère essentiel du péché, c'est le refus de la créature de rester dans la position dans laquelle elle a été placée par le Créateur. Je le répète une deuxième fois. Le caractère essentiel du péché, ce qui caractérise le péché, le point qu'on a établi au début de notre présentation, ce qui caractérise fondamentalement le péché, c'est le refus de la créature de se soumettre, d'accepter la position dans laquelle Dieu nous a établis et placés comme créateur. C'est ça, le péché. Satan y avait été établi même dans une position ultra privilégiée et il a voulu quitter cette position pour s'exalter. Eh bien, le péché chez nous est pas très différent. Quand on refuse de se soumettre à Dieu, quand on refuse de le reconnaître dans ses droits, quand nous, on veut s'élever et s'exalter, c'est le Voilà l'essence même du péché. L'orgueil nous est-il résumé dans 1 Timothée chapitre 3? L'orgueil. C'est l'élévation et l'exaltation. Voilà. C'est ce que le diable avait fait dans le Jardin d'Éden. Ça s'est levé dans son cœur à lui, ça, de s'élever. Mais après ça, il est allé suggérer à Adam et Ève, « Hey, si vous prenez du fruit, vous allez être comme Dieu. » Comme Dieu. Il est en train d'entraîner Adam et Ève sur le même chemin que lui. Exactement le même chemin que lui. S'élever, quitter la position dans laquelle Dieu nous avait placés. Dieu avait juste dit à Adam, « Hey, coupe-toi du jardin, mange tout ce que tu veux, yeah, enjoy! Touche pas de l'arbre la connaissance du bien et du mal, parce que non, tu veux pas faire ça, tu vas mourir le jour que tu vas en prendre. » Voilà la position dans laquelle l'homme avait été mis. L'homme a dit, « Ah ouais, comme Dieu! Ah ouais! Ah ouais! » Crunch, crunch, crunch. Je ne sais pas s'il croquait ou si c'était un fruit juteux. J'ai aucune idée. Là, je fais crunch. Mais... Peut-être que c'était... J'ai aucune idée. Ça va être beau en enregistrement, ça. Il l'a fait. Il a quitté cette place dans laquelle Dieu l'avait établi. Voilà, il l'avait quitté. Et vous serez comme des dieux. Je ne sais pas. Je m'excuse. Je vais juste vérifier comme il faut dans Genèse 3, verset 5. Comment c'est mis en français. 3, 5. Vous serez comme Dieu. Puis on a une petite note de bas de page qui nous dit des dieux. C'est ça. C'est parce que dans les faits, vous serez comme Dieu. C'est vous serez comme Elohim. C'est ce qu'il a dit. Dans certaines traductions, en anglais, c'est écrit You will be like gods au pluriel. OK? Puis dans notre traduction en français, nous, on a toujours lu au singulier, mais le mot c'est des dieux. Ça va chercher le côté pluriel d'Elohim qui est le pluriel. C'est Dieu pluriel. Hein? On sait que la Trinité est déjà manifestée dès le départ, même si elle n'est pas clairement définie. Elohim est pluriel comme nom. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit, vous serez comme Elohim. Vous allez être pareil comme Dieu. Hein? Fait qu'en réponse à cette suggestion-là, malheureusement, Adam s'est engagé dans la même voie impie de rejet du propos de Dieu. Il a quitté la position dans laquelle Dieu l'avait établi pour suivre son idée à lui. C'est ça le truc avec Adam, qui n'avait pas été trompé lui, qui a décidé de suivre son idée à lui. Voilà. Bravo. Bon, on ne va pas lancer les pierres trop vite. Aujourd'hui, on va remercier le Seigneur de ce qu'on a le salut. Puis on a une position excellente en lui, par la grâce de Dieu. Donc, cette forme de péché-là est tellement répandue aujourd'hui autour de nous, cette élévation, il y a plein de beaux mots pour ça, il me quitte tout l'esprit, là, tu sais, c'est « empowering ourselves », puis tu sais, on est capable, puis go, puis away, puis aide-toi et le ciel t'aidera, puis ce genre d'affaires de même, etc. C'est tellement répandu aujourd'hui que lorsque quelqu'un arrive, si c'est possible, dans quelque mesure que ce soit, à se soumettre à la volonté de Dieu un temps soit peu, eh bien, c'est comme s'il avait accompli quelque chose d'extraordinairement grand. Waouh, j'ai réussi à accepter la position que, tu sais, on pense qu'on est quelqu'un parce qu'on a réussi à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est grave, hein? C'est grave, ça montre à quel point on est tellement pas sur le chemin de vouloir se soumettre à la place à laquelle Dieu nous a demandé d'être. Et on remarquera ensuite que tous les enseignements du Nouveau Testament nous demandent une chose, se soumettre et être humble et d'accepter la place dans laquelle Dieu nous a mis. Dans l'assemblée, il y a un ordre à respecter. Dans la vie, il y a un ordre à respecter. Les autorités, toutes ces choses, c'est ça que Dieu nous demande maintenant. Il dit, je vous ai sauvés. Maintenant, comme mes créatures, respectez l'ordre dans laquelle je vous ai établi. Mais nous, des fois, on est sages, on sait bien plus. Non, je ne veux pas obéir à ça parce que... Puis là, on va avoir toutes sortes de beaux raisonnements, très sages, pertinents, beaux et magnifiques, pour excuser le fait qu'on ne va pas faire exactement ce que Dieu nous a demandé de faire parce que... Voyons, on sait qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous de faire. Hein? C'est ça le péché! C'est refuser d'accepter l'autorité de Dieu, vouloir s'élever d'une façon ou d'une autre, de penser qu'on sait mieux, c'est refuser la place que Dieu nous a demandée. Voilà, c'est ça le péché. C'est sournois, c'est subtil, mais c'est là encore aujourd'hui. Puis dans les périodes qu'on vit présentement, on peut bien se questionner. Est-ce que je fais bien ce que le Seigneur me demande de faire? Ah, c'est tellement facile des fois de tourner un petit peu les Écritures puis papa, pour faire marcher ça à notre goût. Ah, il faut faire attention à notre goût. Il faut se soumettre au Seigneur, OK? Donc, je fais juste une parenthèse générale pour que ça nous ouvre les yeux puis notre réflexion sur la nature véritable, profonde du péché puis le chemin dans lequel on a été égaré à cause du diable. Un chemin d'élévation, un chemin d'indépendance de Dieu, un chemin de « je suis capable ». Je fais ça à ma tête. Yeah! Voilà. Alors, c'est pour ça que les suggestions, des fois, semblent si logiques et intelligentes. Notre logique et notre intelligence ne sont pas nécessairement l'obéissance à Dieu. Hein? Donc, on doit apprendre l'obéissance à Dieu et puis à marcher à la suite du Seigneur Jésus. Lui qui est le serviteur parfait, qui a rendu à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu, si on peut dire ça, mais le Seigneur, lui, était parfait. Ça, c'est ce qu'il lui nous a dit de faire. Okay? Le Seigneur a vraiment glorifié Dieu, il a été un serviteur parfait, un homme parfait, et puis il est exalté dans la gloire maintenant. Alors, suivons ses traces, nous aussi, à la suite du Seigneur Jésus. Donc, de manière assez étrange pour nous, Dieu va permettre que l'homme de péché, qui va s'exalter dans le futur, il va se dire être Dieu, puis il va s'asseoir dans le temple. Mais ça va être le point culminant de la présomption, de l'impiété de l'homme total, puis ça va être aussi un des signes de la fin des temps dans Matthieu 24, 15, hein, quand vous allez voir l'abomination, etc. C'est ça. Fait que l'homme s'en va par là, quant à la nature. Mais nous, on est avec le Seigneur. Le diable, il s'en va par là aussi, puis ça va vraiment brasser tantôt, ce sera pas drôle. Mais on connaît la fin aussi. Tous ceux qui s'élèvent, Dieu va les abaisser, jusque dans le fond du Sheol, comme on a lu dans la prophétie concernant le diable. Le péché de Satan, en résumé, c'est la dernière slide. Son péché a pour but de s'assurer cinq choses. Premièrement, il veut s'assurer la position céleste la plus haute. C'est le premier point qu'on a vu. Il veut s'assurer des droits royaux dans le ciel et sur la terre. Il veut régner, il veut dominer. C'est ça qu'il veut. Être au-dessus des étoiles, établir, s'asseoir sur la montagne, le trône du Dieu. C'est ça les expressions qu'on a vues. Okay? Quatrièmement, Satan, son péché, il veut la gloire, il veut s'assurer la gloire, que la gloire qui appartient à Dieu seul, eh bien, il la veut pour lui. Hein, les nus, tout ça, il veut la gloire à lui. Et puis finalement, il veut être semblable au Très-Haut, c'est-à-dire le possesseur des cieux et de la terre. Il veut posséder le ciel et la terre. Alors voilà ce que Satan cherchait à obtenir. Et regardez bien maintenant, c'était pas la dernière slide, ça va être la dernière slide, j'espère. Regardez ceci. Contrairement au Seigneur Jésus, Satan a estimé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. Voilà. Combien c'est beau de considérer la personne du Seigneur Jésus quand on prend un contraste aussi fort. Le Seigneur Jésus, lui, n'a pas considéré comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, alors qu'il est le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Alors, quelle chose? Satan a voulu s'élever, a voulu être comme Dieu, a voulu être égal à Dieu. Il va être abaissé jusqu'au plus profond de l'abaissement. Et Christ, lui, qui s'est abaissé, l'homme excellent, l'homme parfait, le Fils de Dieu, celui qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, qui a porté nos iniquités, qui est passé par la croix, qui a subi la colère et la condamnation à notre place pour que nous puissions être justifiés, qui est entré dans la mort, ressuscité le troisième jour, il a été élevé. Donner un nom au-dessus de tout nom, une place au-dessus de toute domination, élevé extraordinairement, éternellement. Voilà, le Seigneur, il a élevé et glorifié son Fils bien-aimé, lui qui est le Fils éternel de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous sommes attachés à lui éternellement. Nous, des pécheurs ruinés, lavés, justifiés, glorifiés, appelé enfant de Dieu et on appelle Dieu Abba Père. Rendons gloire à Dieu pour ses œuvres merveilleuses, pour les choses extraordinaires qu'il fait. On peut vraiment bénir les voies extraordinaires de Dieu. Le diable est vaincu. J'espère que cette présentation sur son péché sera utile, profitable, pour comprendre davantage la nature même du péché et puis le chemin dans lequel l'humanité a été entraînée aussi, et que ça nous rende plus dépendants, plus attentifs et plus vigilants dans notre marche de chaque jour pour marcher en humilité et en soumission devant Dieu. Lui qui nous a rachetés, avec qui nous avons de nouveau des relations merveilleuses de père et de fils avec lui, et puis dans cette position dans laquelle il nous a mis éternellement. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous encourage tous, et puis dans sa grâce, on va continuer la prochaine fois le survol de la carrière de Satan dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et puis si on a du temps, on va regarder d'autres points aussi. C'est dans l'attente de la venue du Seigneur que je vous dis à bientôt.